France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés. Alors ce soir, pas de télé, mais c'est tout de même à regarder sur le site, hein, puisque nous sommes très beaux, donc autant en profiter. Un grand merci à vous, déjà, en premier, puisque Médiamétrie a rendu son verdict ce matin et France Info connaît des audiences, alors historiques, je ne pensais pas dire ça un jour, mais c'est historique. Cette année, vous avez été très nombreux à nous suivre, plus les 30 ans de France Info. J'ai vu qu'on sature un peu au niveau des pains surprises, mais tout de même, merci à vous. Alors, on attend en tout cas aujourd'hui, beaucoup d'actualités, puisqu'il y en a, malgré le fait que ça soit l'été. Vous l'avez peut-être remarqué quand vous lisez les journaux, on a des titres comme 30% ne savent pas nager, le Sprit c'est-il ringard ou en devenir, camping et toilettes sèches c'est possible. Donc en tout cas, ça sent vraiment l'été. Et eux, par contre, ils ne sont pas du tout en vacances, mais ils aiment voler près du soleil. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Henri Vernet, bonsoir, Parisien aujourd'hui en France. Également Patricia Chaplot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente d'Albera Conseil. François Reynard, bonsoir.
Bonsoir.
De l'Op. C'est Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir.
De France Inter, bravo pour vos audiences.
Merci,
également.
C'est ce que j'allais dire. Nous aussi, on a de bonnes occasions de fêter là.
C'est un peu la fête des voisins.
Et voilà.
Voilà, France Inter. France Inter. Ce soir, nous parlerons de Donald Trump qui aime bien Napoléon, ce monsieur, vous savez, avec un chapeau. De bon manger à venir, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, excusez-moi, François.
Sur les toilettes sèches dans les campings.
Exactement, c'est ça. Voilà.
On avait un point de vue, on était prêts à se
campagner là-dessus. Vous êtes l'invité parfait pour ça. Alors, vu la grogne provoquée par la demande d'économie à la défense, Emmanuel Macron devait-il donner des preuves d'amour à tous les ministères, faire des rondes avec des policiers pour expliquer les baisses du ministère de l'Intérieur ou participer aux moissons pour faire entendre raison au ministère de l'Agriculture? Ça va être un peu compliqué. En tout cas, remonter les Champs-Élysées en véhicule militaire ou descendre en rappel sur un sous-marin nucléaire n'a pas suffi. La confiance entre le chef de l'État et l'armée semble érodée. Hier, la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers a secoué l'institution et désormais il faut retrouver la flamme et le président de la République en visite aujourd'hui à la base de Istres a déjà proposé un rencard à l'armée, alors mais pas tout de suite, la patience, de toute façon ça fait monter le désir, c'est déjà ça Emmanuel Macron.
La sécurité de nos concitoyens réside précisément dans vos missions et c'est pour cela que je veux que les ressources nécessaires y soient consacrées. C'est cette conviction qui m'a conduit à m'engager sur une trajectoire budgétaire qui permettra de porter l'effort de défense à 2% du produit intérieur brut en 2025, afin de continuer à conduire les opérations là où nous devons les mener, à préparer l'avenir et à moderniser les équipements.
Voilà Emmanuel Macron ce midi à la base de Istres. François Reynard, vu l'ambiance actuelle entre l'armée et Emmanuel Macron, est-ce que ce discours, cette démarche sera suffisant?
Alors en tout cas, je voulais juste remarquer un truc par rapport à ça, c'est que je suis fasciné depuis 3 jours qu'il y a cette polémique, enfin cette semi-polémique, 2 jours plutôt.
Ouais, c'est ça, ouais.
Le nombre d'experts militaires qu'il y a en France, c'est extraordinaire. Tout le monde a un point de vue sur le budget de l'armée et sait ce qu'il y a en plus, en moins, etc. Ça change tout le temps. Et ça change tout le temps et ça a encore changé aujourd'hui, parce que là, il essaie de reconquérir, ça c'est très bien. Mais par ailleurs, vous avez vu cette information, c'était pas France Info TV, sur les jeunes officiers, hein, des jeunes officiers anonymes qui ont fait un texte, une lettre anonyme, enfin, une lettre anonyme, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler,
c'est la grande muette,
voilà, pour dire que il y avait aussi beaucoup de gabegies dans l'armée, et donc qu'il y avait en particulier chez les officiers généraux, il y a des tas de pensions, des trucs, etc. Donc bon, il y a beaucoup de corporatisme là-dedans qui est un peu exaspérant.
Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, finalement, cette démonstration, Emmanuel Macron, c'était prévu hein, déjà à la base, cette visite à la base de Istres, mais de le dire comme ça, avec ce ton, en parlant voilà, des familles, aussi des soldats, on voit bien qu'il fait de la kainothérapie.
Non mais bien sûr qu'il fait de la kalinothérapie, mais de toute façon dès le départ, moi je pense qu'il avait aussi, il a fait aussi un geste qui aurait dû plaire à l'armée, qui est c'est moi le chef. On dit de l'autoritarisme, etc. Les éditorialistes, les mêmes éditorialistes qui reprochaient à Hollande d'être complètement mou, de céder à tout le monde, etc. Là, ils râlent parce qu'il y a un type qui dit un ordre, c'est un ordre, un ordre, c'est un ordre, c'est un principe militaire. Ça me dérange pas.
Patricia Chaplot.
Alors, moi, je suis un peu d'accord avec vous. Pour autant, Pierre de Villiers avait effectivement prononcé une phrase en commission qui a été communiquée. Mmh. Moi, je trouve que remettre Pierre de Villiers dans les rangs à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense, le 13 juillet, à la garden party du ministère de la Défense, la veille du 14 juillet, avec Pierre de Villiers à 2 mètres et la ministre à côté devant tous ces hommes, entre guillemets, j'ai trouvé ça un peu dur. Je pense que moi, je l'ai trouvé. Je trouvais
qu'il lui-même, il avait une formule qui était très dure et très vulgaire. Quand même. Mais je ne vais pas me laisser baiser. C'est dur.
Il n'était pas prononcé en grand public.
Non, mais d'accord.
Il a été applaudi. Et puis un militaire, ça parle comme ça. C'est pas très grave. C'est pas traumatisant.
Il a été applaudi à la commission de la défense pour ça. Pour Macron, c'était quelque chose qui était un ordre injurieux.
Alors, je vais juste finir pour dire que. Il aurait très bien pu le convoquer dans son bureau à l'Élysée, qu'il fasse preuve d'autorité et dise que c'est moi le chef, ça ne me pose aucun problème. Il a raison, et je pense qu'il a raison de le faire. Pour autant, franchement, vous faire dézinguer, si je puis dire, devant les 200 personnes qui sont là...
Il n'y a pas d'autre manière de se faire dézinguer.
On convoque dans son bureau à l'Élysée, et puis on
le dit... Alors, Béranger, il y a juste une chose, c'est hier, le général Vincent Desportes, il a écrit une tribune dans le journal Le Monde, et il a écrit à propos de l'attitude d'Emmanuel Macron qu'il s'agissait d'autoritarisme juvénile.
Oui, enfin, écoutez, moi, je ne connais pas d'autre manière de se faire dézinguer, pour d'une bonne raison, c'est qu'effectivement, la phrase dont vous parliez, qui est peut-être une phrase de cavalier ou une phrase cavalière, a été prononcée devant des députés qui, évidemment, l'ont fait fuiter. Donc, face à ce qui est un affront présidentiel.
Bien sûr. Il y a quand même une démocratie et Dieu merci, il reste des députés qui l'ouvrent.
Face à une agression de la part d'un général dont le devoir est de se mettre le petit doigt sur la couture du pantalon quand le président est élu, il y avait quand même besoin de réagir. Deuxièmement, qui est élu? Emmanuel Macron ou Monsieur de Villiers? Qui est le garant du budget national? Emmanuel Macron, Monsieur de Villiers. Et puis j'aimerais revenir sur un petit point que vous avez abordé, ou vous d'ailleurs. Est-ce que vous savez combien il y a de généraux en France?
Non, mais c'est une armée mexicaine.
Il y a 300 généraux dans l'armée française.
Alors,
un général,
mais ça n'est pas nouveau. Très sincèrement, c'est une armée mexicaine.
Un général, mais c'est un autre problème. Militaires français. C'est un ratio inégalé dans le monde, peut-être par l'armée britannique. Donc il y a un moment aussi, si on veut trouver du gras, on va trouver.
Oui, alors justement, Henri Vernet, vous allez répondre dans quelques secondes, finalement, à cette affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur, puisque je vous le disais, donc Emmanuel Macron et sa ministre sont allés à base de Istres pour essayer de réconforter, de s'entendre de nouveau. Alors le lien est-il distendu entre l'armée et Emmanuel Macron? On va voir ça dans un instant. L'info à 20h10, c'est Maxime Fayolle.
Emmanuel Macron persiste et signe aujourd'hui à Istres devant les personnels de l'armée. Le budget baissera bien en 2017, mais il augmentera en 2018. Il sera d'ailleurs le seul à progresser, annonce aujourd'hui le chef de l'État. L'Union européenne hausse le ton face à la Pologne. Le pays a voté une réforme très controversée aujourd'hui qui limite l'indépendance de la justice. La Commission européenne envisage des sanctions. Le Venezuela complètement paralysé aujourd'hui après une grève générale à l'appel de l'opposition. Commerce fermé, transport à l'arrêt. Le président Nicolas Maduro envisage de modifier la Constitution, un projet qui est très controversé dans le pays. Et la victoire d'un Français sur le Tour de France aujourd'hui, Warren Barguil s'impose pour la deuxième fois sur la grande boucle au sommet de l'Izoard. Chris Froome reste en jaune, Romain Bardet, lui, est deuxième au général.
France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info et nous parlons de ce qui nous occupe depuis maintenant près d'une semaine. C'est un Devilliers. Alors c'est pas Philippe, non, c'est Pierre Devilliers, son frère. C'est vrai qu'on connaissait peut-être moins du grand public, mais Pierre Devilliers, donc qui a démissionné, chef d'état-major. Cette décision, donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a confirmé qu'en 2018, le budget de la défense serait le seul à augmenter. Henri Vernet, si on fait un petit peu de recul au niveau politique, quand Emmanuel Macron recadre Pierre Devilliers. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ou c'est vraiment un acte d'autoritarisme?
Non, vous avez raison, c'est la question. Moi, je ne suis pas sûr qu'il mesure exactement ce qu'il fait. Maintenant, je suis d'accord avec mes confrères sur le fait qu'un chef est un chef. Il y a un seul chef des armées, c'est le président. Mais là-dessus, on est totalement d'accord. En revanche, négliger pour autant le problème de fond, qui est un problème budgétaire, pas tant grave, réel, français, c'est une réalité. Bon, voilà. Un acte d'autoritarisme, je pense qu'il a en effet, il l'a surjoué, Emmanuel Macron. Mais comme il surjoue depuis le début, c'est quelqu'un qui met en scène, il a une espèce de côté un petit peu maniaque de chacun doit être dans son rôle, le côté autoritaire, la restauration de l'État. Rappelez, c'est quelque chose qui revient souvent chez lui, il faut être dans son rôle. Il l'avait dit à la presse, par exemple, au moment de l'affaire Ferrand, il le dit un petit peu à Thierry Larrigaud, il y en a qu'un seul d'ailleurs qui occupe tous les rôles, c'est lui-même, qui est l'homme président à la Sarkozy, finalement. Mais là, par exemple, hier encore, et aujourd'hui, il l'a répété, le rôle du chef d'état-major, c'est pas de s'occuper du budget, c'est le rôle de la ministre. Sauf que la ministre, on ne la voit pas. Et en plus, ce n'est pas vrai. Le chef d'état-major, constitutionnellement, en tout cas dans la pratique militaro-politique française, c'est un conseiller. Il est conseiller du gouvernement, donc y compris sur le côté budgétaire, puisque c'est lui qui est censé dire quels sont les moyens, pas tout seul, bien évidemment, et c'est surtout pas lui qui tranche, on est entièrement d'accord, mais il est censé alerter sur les moyens qui peuvent manquer. Donc la manière dont a surréagi Emmanuel Macron, Alors après, j'ai appelé, j'ai demandé à l'Élysée. On m'a dit, par exemple, oui, mais attention, ils visaient peut-être les auteurs des fuites. C'est-à-dire, il y avait certes, mais voilà, exactement.
Non, mais c'est ça qui a compris, un peu plus. Alors, Patricia Chaplotte.
Non, oui, moi, je voulais dire deux choses. Je pense que peut-être que notre ami Macron a, d'une manière naturelle, est un homme autoritaire, et on l'a découvert autoritaire. On commence à découvrir sa vraie personnalité. Je pense qu'il a peut-être été un peu traumatisé. Il a connu le système de l'intérieur par Hollande, qui, lui, ne faisait absolument pas preuve d'autorité. Il est jeune, donc on s'est dit, voilà, quand on est chef, on ne dit pas qu'on est chef.
Et pourtant, Patricia, c'est vrai qu'il a été des gestes. Au moment de son investiture, il remonte les Champs-Élysées en véhicule militaire, etc.
Je pense qu'il a réussi son coup, si je puis dire, à Istres, et que je pense qu'il a recréé un lien et qu'il aura fait une démonstration d'amour et que tout allait très bien. Et ce qu'il a réussi aussi, et ce qui est très bien, c'est que les Français n'aiment pas forcément leurs militaires et ne comprennent pas forcément à quoi ils servent.
Ça, c'est terminé.
Depuis le 13 juillet où il y a eu
depuis les opérations
en
Mali,
en tout cas, on a réexpliqué à quoi servait l'armée, on a réexpliqué, on a vu des militaires sur les chaînes de télé, c'était très bien.
Une chose, François Reynard, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que depuis cette démission, cet homme, Pierre de Villiers, de l'extrême droite à l'extrême gauche, aujourd'hui, on le considère comme un symbole, presque contestataire, pour certains, c'est un peu un con pour un militaire. D'ailleurs, c'est assez étonnant, non, cette récupération.
Ça s'appelle de l'instrumentalisation démagogique, c'est-à-dire, on se sert de n'importe quoi pourvu que ça fasse tomber le gouvernement. Là, je vois dans la fachosphère, comme on dit le traître Macron, ce qui a fait tomber Philippe de Villiers. Alors le nouveau chef d'état-major, qui était un type formidable, qui était un héros, qui s'est battu à main nue sur un pont au Kosovo, je crois, ou en Yougoslavie.
En ex-Yougoslavie,
oui. Alors lui, c'est quoi? C'est un collabo, donc s'il aide un traître, c'est évidemment absurde et scandaleux. L'autre chose que je voulais dire, c'est que les voix montent beaucoup sur le thème, oui, mais l'armée, c'est tellement important de ne pas toucher à l'armée, etc. Demain, il y aura la même chose sur le budget de l'université. On va dire, l'université, on ne va pas y toucher. Après-demain, sur la culture, avant la culture, etc. Non, il restera quoi? On fera des économies sur les tourneuses à gazon, il y aura le lobby des tourneuses à gazon, qui veut dire qu'il ne faut pas y toucher. Donc, il faut soit on fait des économies, soit on augmente les impôts. Les gens ne veulent plus qu'on augmente les impôts, et bien si on n'augmente pas les impôts, on fait les économies. Il n'y a pas d'autre moyen en économie.
Je suis mille fois d'accord avec vous. Je pense qu'il y a deux choses quand même. Le fait de conseiller le président de la République pour Philippe de Villiers ne consiste pas ne consiste pas non plus à l'embarrasser. C'est-à-dire que.
Si on va devant une commission de la défense et qu'on emploie la langue de bois,
ça ne consiste pas à l'embarrasser. Donc que Emmanuel Macron veuille recadrer un général parce que en plus de parce qu'il est sorti de son rôle de conseil pour l'embarrasser, c'est une affaire. Deuxièmement, il y a un autre message qui est plus subtil, qui est donné en fait pas seulement à l'armée, mais aussi à l'ensemble de l'administration centrale. C'est maintenant on ne fait plus n'importe quoi. En fait, pendant extrêmement longtemps, de Sarkozy d'ailleurs, qui était au fond beaucoup plus sensible ou beaucoup plus indécis, qu'on veut bien le dire, à Hollande, l'administration centrale française a fait absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on pouvait engager des économies, de l'autre côté, grosso modo, elle faisait la toupie dans Paris en disant c'est moi qui décide, ou c'est un directeur de... Et là, visiblement, il y a une volonté constante d'Emmanuel Macron, depuis le début, qui a souffert de cette façon dont l'administration centrale se comportait vis-à-vis des politiques, grosso modo, en étant la seule récurrence de la République alors que les politiques passaient, eh bien, il veut marquer un coup d'arrêt. C'est pas de l'autoritarisme, c'est l'autorité retrouvée d'un peu... Et pour le coup, moi qui suis pas un des plus grand défenseur d'Emmanuel Macron, en tout cas dans ses premiers pas, je le dis, c'est l'autorité retrouvée des politiques face à une administration centrale qui avait oublié ce que c'était qu'avoir un chef.
Regardez ici, sur ce plateau, hier soir, nous avions Pierre Servant, donc qui est un expert militaire et qui expliquait, en fait, le problème, c'est que tout ça, c'est la finalité d'énormément de coupes budgétaires depuis 20 ans. Finalement, vous l'avez expliqué également aussi ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne, finalement, pour critiquer, puisqu'il n'y a pas de syndicat. Forcément, c'est l'armée. Il n'y a pas de porte-voix. Il n'y a pas aussi toutes ces expressions que l'on peut voir, finalement, ailleurs.
Régulièrement, des généraux ont poussé des coups de gueule et quasiment dans les mêmes termes.
Mais lui, le premier, en 2014.
Mais bien évidemment, là, c'est sorti parce qu'en effet, ça a beaucoup moussé. Et encore une fois, c'est en cela que je n'ai pas dit qu'Emmanuel Macron était de l'autoritarisme ou du petit chef ou du juvénile dans l'affaire. Pas du tout. Et je trouve d'ailleurs que ceux qui disent ça, c'est assez amusant parce que les Vincent Desportes que vous citez, les autres chefs militaires qu'on entend, sont tous des retraités, en quelque sorte. Et comme ils font tourner des petites boutiques, ils ont intérêt à être le plus virulent possible pour être réinvités sur les plateaux. C'est un petit peu comme ici, finalement, les informés. Ouais. Plus vous l'ouvrez, plus vous avez le truc saillant et plus vous serez réinvité.
On invite beaucoup de gens qui la ferment aussi.
C'est ça aussi qui a fait un petit peu mousser la crise. Mais bien évidemment, ce problème est récurrent. Il se pose très fréquemment. Alors, évidemment qu'il y a des abus. Ce que visait Emmanuel Macron aussi, son message était, comme vous le dites, plutôt plus subtil, mais moi, je ne pense pas pour ces raisons-là, parce que sur l'administration, il l'a déjà dit. Il a dit qu'il ferait le spoil système, comme d'ailleurs Sarkozy qui était candidat à la primaire, il a déjà dit qu'il changerait les patrons d'administration parce qu'il veut en finir avec cette inertie ministérielle française, mais ça, c'était déjà dans son message, c'était annoncé, c'est pas nouveau. En revanche, il a un message qui est un message envers le fameux lobby militaro-industriel sur lequel s'appuient bien souvent les militaires, et il y a des abus, ça c'est très clair. Il y a des commandes d'armement qui sont pas forcément les plus utiles. Écoutez, suis d'aller voir les cimetières de Charles Leclerc, mais bien sûr, des milliers de chars qui rouillent comme ça. Bon, et en effet, il faut plus de rationalité là-dedans. Ça, on est très clair. Mais il faut aussi quand même mettre cette armée aux normes. Nous, ce matin, dans le Parisien, par ce qu'on révèle, c'est ce rapport qui montre que tout simplement les casernes, les équipements, etc., tout ça est insalubre. Voilà. Qu'un hélicoptère sur deux est en état de voler au Mali, et ainsi de suite. Et que donc, ça met en danger les troupes, tout simplement. Donc ça, en effet, c'est une incurie de mandats qui se sont succédés et à laquelle, un beau jour, il faut bien finir. Mais c'est justement l'engagement de Macron aujourd'hui.
François Reynard, on voit aujourd'hui, à votre avis, quand on voit des Français, qui sont quand même attachés à l'armée, vous l'avez dit, notamment depuis janvier 2015, depuis les attentats qui nous ont frappés sur le sol français. Est-ce que ça, c'est un sparadrap, c'est une crise qu'Emmanuel Macron peut traîner tout le long de son quinquennat, ce problème avec l'armée?
Franchement, moi, je crois absolument pas. Je pense que là, il y a un côté creux de l'été. C'est à côté de ça. Tous les journaux en font des tonnes parce que c'est le machin. Mais franchement, j'ai entendu un éditorialiste qui disait on n'a pas vu pire depuis le putsch généraux.
Oui, moi aussi,
j'ai
entendu
ça. C'était la guerre d'Algérie. Il y a une menace fasciste en France qui a été contrôlée, heureusement, par le général de Gaulle. Mais enfin, c'est sans comparaison.
C'est un phénomène.
Dans trois jours,
Une dernière chose, Anthony Béranger, rapidement, on dit souvent, voilà, l'armée en Europe, il y a deux grandes armées, française, l'armée britannique. Aujourd'hui, justement, est-ce que l'armée française, si en effet, s'il n'y a pas de renouvellement de matériel, est-ce qu'on peut toujours assurer ce rôle, finalement?
Non.
On tient ces deux piliers, finalement, de
l'armée française l'armée britannique est la seule qui soit comparable à la nôtre. Hein. L'armée allemande a à peu près le même budget que l'armée française, parce qu'à force d'avoir 1,1% d'un PIB qui est 1000 milliards d'euros supérieur à celui de la France, finalement, ça fait beaucoup d'argent, mais elle a aussi pris des décisions stratégiques importantes que l'armée française serait bien à même de regarder et d'imiter peut-être de temps en temps. Par exemple, elle a décidé qu'effectivement, c'était pas forcément la peine d'avoir des chars, et que donc elle privilégie.
Il y a pas de chars, il y a quoi alors?
Il y a plein de choses à faire. Des gros chars nucléaires qui défoncent les Champs-Élysées, c'est inutile, tout le monde le sait bien. De la même manière, la deuxième composante nucléaire française est inutile, tout le monde le sait bien. Mais par contre, ils ont décidé de mettre des troupes projetables, d'avoir des chars légers, des blindés légers. Voilà. Mais c'est ça la guerre moderne.
On sait aussi finalement cette division aussi cyberdéfense qui a été créée par Jean-Louis Drian, qui est aussi là.
Et est-ce qu'on aura une Europe par
France? On est ridicule.
Anthony, voilà, ça doit terminer à un moment. L'info à 20h20, c'est Maxime Fayolle.
La plateforme de Renault dans Lyon est à l'arrêt ce soir à cause du blocage du site par des salariés de GMES. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, demande au GMES d'arrêter le blocage. Ils sont entre 50 et 80 encore présents ce soir. La tombe de Salvador Dali rouverte ce soir, 28 ans après la mort du peintre espagnol. Une cartomancienne affirme être sa fille. La justice a autorisé des prélèvements. On connaîtra la réponse dans le courant du mois de septembre. 4 membres de l'équipe de robotique du Burundi sont portés disparus à Washington depuis 2 jours. Ils étaient 6, mais 2 d'entre eux ont été retrouvés ce soir à la frontière du Canada. Et Christopher Froome, toujours en jaune ce soir, 23 secondes devant le français Romain Bardet, après la triomphale victoire de Warren Barguil au sommet de l'Izoard aujourd'hui dans la dernière grande étape des Alpes du Tour de France.
France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, Patricia Chaplot, présidente d'Albera Conseil, François Reynard de l'Obs et Anthony Bélanger France Inter. Et oui, on parlait justement de politique car cette affaire Pierre de Villiers est une affaire très politique et pas qu'économique. Et vous savez, ici, il y a une sorte de droit de suite. Donc on continue les dossiers qui nous ont animés pendant toute l'année. Et là, bien aujourd'hui, a surgi une information concernant les assistants parlementaires européens. Alors on en a un peu parlé cette semaine avec Jean-Luc Mélenchon, mais là, on revient un petit peu à l'ancienne, puisqu'on va parler des assistants parlementaires du Modem. Rappelez-vous, ça a été la démission, ça semble très très loin en fait d'un coup, la démission successive de 3 ministres du gouvernement d'Édouard Philippe, et notamment de François Bayrou tout de même, de Mariette de Sarnez et de la ministre des Armées, déjà à l'époque, Sylvie Goulard. Et donc aujourd'hui, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour abus de confiance, recel de ce délit et escroquerie. Henri Vernet, c'est une suite logique là, de ce qui s'est passé par rapport au MoDem ?
Oui, ça paraît assez logique. En même temps, ça ne préjuge pas du tout de l'arrivée, hein, de l'aboutissement de cette enquête. Ça peut durer longtemps, ça peut finir en non-lieu. Enfin voilà, tout cela maintenant, c'est vraiment entre les mains des juges. Mais oui, ça paraît assez logique. On peut imaginer d'ailleurs que la même chose se passera pour Mélenchon. Pour Jean-Luc Mélenchon et ses co-députés, si je puis dire. Mais bon, là, on retombe typiquement dans ces travers de financement, notamment de petits partis, ce qui est l'ironie de l'histoire. Finalement, c'est que là, maintenant, le MoDem a 42 députés, c'est donc ça. Est assuré d'avoir des financements extrêmement importants, sauf si certains finissent par aller directement en marche. Hein. Tant qu'à faire, autant achever la mue. Mais en tout cas, ça leur va leur assurer un financement public assez important. Mais c'est vrai que malheureusement, ces pratiques-là, elles étaient extrêmement classiques pour tous ceux qui étaient dépourvus de
juste
gros
avant de revenir dessus, juste une chose, Henri, est-ce que c'est quand même le deuxième pilier? Il le dit, hein, c'est comme ça qu'on le présente, le MoDem, deuxième pilier de la majorité. Est-ce que ça peut être un problème?
Non, pour moi, c'est un strapontin. C'est pas un pilier, puisque à lui seul, il a une majorité qui lui suffit. On le voit bien, d'ailleurs, pour l'instant, c'est une majorité, tout passe, et elle écrase les amendements, elle écrase, je veux dire, la moindre possibilité d'expression, pour l'instant, de l'opposition. Et le MoDem, vous avez entendu quelqu'un du MoDem s'exprimer? Vous avez entendu une force politique s'exprimer? Aujourd'hui, dans ce Parlement, pour l'instant, on n'entend pas vraiment En Marche, parce que pour l'instant, tout le fonctionnement est assez rodé, tout ça suit comme un seul homme, et on entend Mélenchon, en gros, c'est cela, un petit peu quelques Républicains.
François Reynard?
Non, le truc qui était vertigineux et très romanesque, c'est Bayrou lui-même, quoi. C'est que pendant 20 ans, il dit il faut tout changer dans la vie politique française, tout le monde dit il est grotesque, il est ringard, on se moque de lui, etc. Il est accusé, il est traité de traître quand il avait appelé à voter Hollande, tout ça. Là, son plan réussit de manière magistrale et il est viré en une semaine après. Mais c'est dingue.
Ça paraît étonnant. Et puis, ce sont même ses idées aujourd'hui qui sont au pouvoir, en gros. Ouais, hein, puisque
c'est ce qu'il a défendu depuis 20 ans.
Hein. Patricia Chaplot.
Là, on assiste vraiment à la fin d'un système, à la fin d'une vieille politique, à la fin de pratiques qu'on a. Enfin, en tout cas, moi, je les ai connues puisque j'ai travaillé dans des cabinets ministériels et je travaille au Sénat. Donc, je connais parfaitement toutes ces pratiques.
On est dans des menottes pour vous, Patricia.
Le monde fonctionnait comme ça et ça ne choquait personne.
Est-ce que vous pensez que ça se termine vraiment comme ça ou avec les changements d'étiquette? Parce qu'on voit en effet, là, c'était quand même avant le changement de gouvernement, il y a trois ministres qui sont obligés de démissionner, il y en a un autre qui est exfiltré quand même à l'Assemblée nationale. Muriel Pénicaud en ce moment est dans une affaire. Alors est-ce que c'est vraiment un autre monde ou finalement il reste ce monde-là en fait?
Aujourd'hui, on doit expurger, si je veux dire, ou purger toutes les histoires du passé. C'est vrai que Muriel Pénicaud, c'est assez récent. Ouais. Mais moi, j'ai aussi vécu ce genre de choses. Quand un ministre ou un cabinet de ministre demande d'organiser un événement à Las Vegas, vous savez que personne ne résiste et qu'on trouve la solution pour le faire. Et on ne va pas dire à un ministre comme à Emmanuel Macron, on doit faire un appel d'offres et l'appel d'offres, il ne rentre pas dans les cases et vous n'aurez pas votre soirée. Ouais, ça n'existe pas. On le fait, quoi qu'il arrive, et on trouve la solution pour le faire.
Ce qui est fascinant, c'est Mélenchon, évidemment. Ce qui est amusant, c'est de voir si effectivement le parti, ou en tout cas Jean-Luc Mélenchon, a bénéficié ou pas de ce type de financement, pas occulte, hein, il ne s'agit pas de ça quand même, hein, mais par le biais du Parlement européen, parce que à force de s'opposer, et c'est quand même un homme qui est en vie dans la vie politique depuis 30 ans. Lui, s'il y a bien quelqu'un qui incarne la vieille politique, c'est bien lui. Enfin, en tout cas, on va voir jusqu'à quel point. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les députés, d'ailleurs, sitôt arrivés, les députés En Marche, les députés En Marche, avaient décidé de suivre comme un seul homme les recommandations, y compris de la loi, qui notamment devait supprimer la réserve parlementaire.
Exactement.
Et puis tout à coup, dès qu'ils se retrouvent devant l'obstacle, ils trouvent qu'avoir un peu d'argent pour ça, leur circonscription, c'est pas mal. Donc, on voit bien que entre le vieux monde et l'ancien monde, il y a finalement quand même une espèce de porosité. Même si, effectivement, je pense que ce qui se passe là en ce moment, c'est vraiment on purge bébé. C'est-à-dire, c'est les queues de comète. Hein.
Alors, Henri Vernet, le problème, c'est que là, c'est une députée FN hein, qui, à l'Europe qui a donc donné ses noms, Jean-Luc Mélenchon, le MoDem. Ça veut dire qu'en fait, tous les partis en fait, seraient dedans. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir les Républicains, le Parti Socialiste aussi
Non, a priori non. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça concerne les petits partis. Ceux qui, par définition, n'ont pas de financement public important parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'élus et qui donc ont fait pour C'est du pragmatisme, c'est de l'arrangement, c'est des petits arrangements entre amis. Je veux dire, tout ça, c'est pas glorieux, mais ce sont en effet des vieilles pratiques. En effet, il faut les purger, mais ça mettra du temps. Parce que regardez, ne serait-ce que les 42 élus MoDem aujourd'hui, en réalité, beaucoup d'entre eux sont d'anciens assistants parlementaires. Donc ça veut dire que si cette enquête prospère, ils vont être visés par l'enquête. Que vont-ils devenir et que va devenir ce groupe MoDem si, alors je fais de la spéculation, cette enquête avançait et qu'ils avaient réellement des ennuis, ben là oui, il y aura un problème. Non, tous les partis, je pense pas, ils passeront. De toute façon, les Républicains ont montré qu'ils avaient d'autres stupres financiers, d'autres, comment dire, d'autres affaires, d'autres problèmes. Voilà. Et voilà, mais a priori, pas celui-là, ni le PS, parce que leur, je veux dire, leur financement était suffisamment important. Mais bien sûr, le FN, Mélenchon et ses camarades. Mais eux d'ailleurs, ont un certain mépris envers ça en disant, mais attendez, mais nous, on n'aime pas l'Europe. Donc, après tout, c'était normal qu'on se serve pour faire fonctionner.
C'est l'argument un peu du Front National.
Bien sûr.
Juste François Reynard, est-ce que cette loi de la moralisation de la vie publique, qui était si importante, si symbolique après l'affaire Fillon, pendant la présidentielle, portée par François Bayrou, est-ce qu'elle n'est pas un peu démonétisée aujourd'hui? C'est-à-dire, on en parle finalement moins, alors qu'elle devait être un symbole, véritablement.
Bah, en tout cas, ce qui me perturbe, moi, par rapport à ces histoires-là récentes, c'est que ça donne au grand public le sentiment que la vie politique est de plus en plus corrompue. Alors que quand on regarde les choses dans l'histoire, elle est de moins en moins. Hein. Ouais, c'est-à-dire que pourquoi? C'est que la presse est plus efficace, c'est que les histoires sortent plus. Et en plus, comme vous le disiez, elle joue sur des choses assez vénielles. Là, on ne reproche pas, c'est pas des gens qui sont dans les années 60.
Personnel, c'est pas d'enregistrement personnel.
Dans les années 60-70, hein, la France de De Gaulle et de Pompidou, c'est le gaullisme immobilier, comme on disait, c'est des affaires immobilières. Les mecs s'en mettaient plein les poches de manière privée et ils n'ont jamais été inculpés de quoi que ce soit parce que le pouvoir tenait tout ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, donc il faut garder raison, c'est pas grand chose.
Anthony, je vous assure, vous pourrez parler, vous parlez beaucoup, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas muet, on continuera à parler, bien sûr, dans les informés de France Info. On va parler du sommet, de l'alimentation, on parlera même de Donald Trump, voyez. Anthony Bélanger, ça c'est votre parti. Les Informés de France Info revient dans un instant. Pour l'instant, on part à Météo France.
France Info Météo avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore des averses demain dans le sud-ouest. Ce sera chargé le matin avec quelques averses. Ça s'éclaircira l'après-midi. Les nuages auront gagné le massif central, les régions de l'est. Ça deviendra orageux. Des averses et des orages plus marqués en montagne. Sur le nord-ouest, là aussi, on aura beaucoup de nuages avec l'arrivée d'une nouvelle dégradation. Quelques averses dès le matin et des orages sur la Bretagne l'après-midi. Le vent se renforcera jusqu'à 70 km/h sur les côtes, 50 sur les autres régions du nord. Ailleurs, on aura de bons moments de soleil, du plein soleil en Méditerranée au prix du vent. Côté thermomètre, 17 à 23 degrés dans le sud-est le matin, pas plus de 11 à 17 ailleurs. Et puis l'après-midi, 19 degrés à Brest, 23 à Cabourg, à La Rochelle, 24 à Agen, 26 à Lille et Bourges, 27 degrés à Paris, 28 à Metz et à Lyon et 31 à Marseille.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Maxime Fayol.
La fermeté affichée d'Emmanuel Macron aujourd'hui face aux militaires. Le chef de l'État était à Istres sur la base aérienne 125. Il persiste et signe sur le budget diminué cette année, mais qui sera le seul à augmenter l'année prochaine. Une opération reconquête, Julie-Marie Lecomte, après la démission hier du général de Villiers.
Ils ont été sélectionnés pour écouter le président sous un soleil de plomb. Présence obligatoire, on ne saura pas. C'est un honneur d'être la coupe en uniforme devant des ravitailleurs des années 60 qui commenceront à être remplacés l'an prochain. Emmanuel Macron cajole les troupes, non sans sous-entendu.
Vous agissez avec un très grand professionnalisme et dans la plus absolue discrétion. Je sais parfois l'ingratitude de missions qu'on ne peut raconter, de secrets qu'on ne peut partager. Fierté et humilité. C'est cela qui fait notre force.
Le président de la République vient négocier la paix, mais il ne renonce pas à solder ses comptes avec le 5 étoiles démissionné.
Je n'accepterai aucun discours de défaite. Je ne laisserai personne dire que tel ou tel choix budgétaire se fait aux dépens des forces, de votre quotidien, de votre sécurité. C'est faux.
Emmanuel Macron a essuyé le feu des critiques pour son autoritarisme présumé pendant la crise. Il quitte Istres en assurant aux soldats son estime et sa confiance.
Ce ne sont pas des mots, ce sera une présence à vos côtés. Ce seront des décisions cohérentes et ce sera une détermination au quotidien, à hauteur d'homme, c'est-à-dire la même que la vôtre.
Ce soir, Emmanuel Macron annule sa présence aux États généraux de l'alimentation pour passer plus de temps avec les militaires qui lui ont fait pendant son vol de retour à Paris en avion ravitailleur un exercice de démonstration. À Istres, Christophe Papon, Julie-Marie Lecomte, France Info.
Le défenseur des droits se félicite ce soir de la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les séropositifs. Un décret signé aujourd'hui par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il prendra effet au début de l'année prochaine. On connaît ce soir le nombre de loups qui vont pouvoir être abattus jusqu'au 30 juin prochain. Le gouvernement fixe la limite à 40 loups. Des tirs de prélèvement sont autorisés en cas d'attaque de troupeaux dans un périmètre déterminé. On estime qu'il y a environ 360 loups répartis sur toute la France. La Commission européenne met en garde la Pologne ce soir contre d'éventuelles sanctions. Le pays vient d'adopter une réforme de la Cour suprême, un projet qui pourrait porter atteinte à l'indépendance de la justice. Des centaines de manifestants se sont donné rendez-vous devant le Parlement polonais pour protester contre cette réforme. La belle victoire de Warren Barguil sur le Tour de France au sommet du col de l'Izoard aujourd'hui. Le Français qui a également sécurisé son maillot à poids de meilleur grimpeur, il devrait le garder sauf abandon jusqu'aux Champs-Élysées. Romain Bardet lui termine troisième de l'étape juste devant Christopher Froome. Il est désormais deuxième au général à 23 secondes de avec 23 secondes de retard sur le Britannique. Demain, c'est l'étape la plus longue sur le Tour de France, 222 km entre Embrun et Salon de Provence. 20h33 sur France Info, la suite des informés Jean-Mathieu Pernin.
Les informés Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Et eux, ils font des bulles, voilà, avec l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Henri Vernet du Parisien Aujourd'hui en France, Patricia Chaplotte, présidente d'Albera Conseil, François Reynard de l'Obs et Anthony Bélanger de France Inter. Alors, une question nous turlupine depuis ce matin. Mange-t-on bien aux états généraux de l'alimentation? Non, parce que si c'est pour se retrouver avec un déjeuner classe croûte, à quoi bon? Aujourd'hui, à Paris, s'ouvraient donc les états généraux de l'alimentation afin de trouver des solutions à la crise agricole et d'aider au bien manger. De plus en plus de Français s'intéressent au contenu de leur assiette. On découvre tous les jours de nouvelles formes d'alimentation. Et selon une étude récente, 30% des Français interrogés n'auraient pas confiance dans les produits alimentaires qu'ils trouvent dans le commerce. Alors il y a 500 à 600 acteurs du secteur qui vont plancher sur le sujet jusqu'à la fin de l'année. Au cœur des discussions également, la crise entre les producteurs de lait et la grande distribution, autant de points d'achoppement qui pourraient se régler par une loi, selon le porte-parole de la Confédération paysanne, Laurent Pinatel.
Il nous semble que l'incantation, elle suffit plus. Hein. Si on prend la filière laitière, Emmanuel Beignet qui prend la majeure partie du gâteau pour lui, c'est pas parce qu'on aura fait les états généraux qu'il va dire « Ah bah oui, c'est vrai, il faudrait que je partage un peu ». Non, c'est la loi qui contraindra Emmanuel Beignet, Lactalis, à payer correctement ses producteurs, de la même façon que c'est la loi qui le contraint à payer correctement ses salariés.
Voilà, Laurent Pinatel de la Confédération Paysanne. Alors, bien sûr, on va parler de beaucoup de choses dans ces états généraux de l'alimentation, c'est très très vaste, mais en premier, bien sûr, c'est le sort des paysans français. Hein. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce que, à votre avis, Patricia Chaplotte, ça permet de s'attaquer vraiment aux problèmes rencontrés par la paysannerie française, quel que soit le gouvernement aujourd'hui est confronté à des crises
Il faut l'espérer, parce qu'autrement on ne comprendrait pas à quoi sert ces assises de l'alimentation. L'alimentation, ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est évidemment très important, mais je pense que ce qui est important, c'est l'avenir de notre agriculture. Oui. Les chiffres sont quand même assez affolants de voir qu'il y a 50% des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la honte de la France pour moi. Les affaires militaires, c'est rien. On est tous des enfants d'agriculteurs ou des petits-fils d'agriculteurs. L'agriculture, c'est ce qui fait l'honneur de notre pays. Enfin, moi, je suis extrêmement choquée que les gouvernements précédents n'aient rien fait. Mais rien. Un agriculteur qui vit avec 350 euros. Oui. Enfin, je veux dire, donc, les assises de l'alimentation, les grands enjeux, c'est de retravailler sur les circuits de distribution, c'est de travailler avec les centrales d'achat de la distribution et c'est de rétablir des règles pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail.
Alors justement aussi, Anthony Bélanger, est-ce qu'à votre avis c'est une manière finalement polie aussi d'anticiper une crise auquel aucun gouvernement n'échappe, c'est-à-dire face aux agriculteurs? Parce qu'on l'a vu, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, tout le monde a eu une crise agricole.
J'essaie toujours de replacer ça dans un contexte européen. Je viens d'une époque, pas si lointaine, où la France était le premier exportateur agricole d'Europe et du voire du monde. Enfin, on alignait les records en termes d'agriculture. Quand j'ai appris, il y a quelques années de ça, que c'était l'Allemagne qui nous était passée devant, l'Allemagne qui a, je rappelle quand même, 100 000 à 200 000 km² de moins, je suis resté comme deux ronds de flanc, comme on dit. C'est-à-dire, grosso modo, notre agriculture, et s'est fait doubler par l'agriculture allemande, alors qu'elle est censée Et ça, à mon avis, c'est en grande partie sur le dos de la FNSEA qui co-gère l'agriculture française d'une manière immonde et probablement en plus inefficace, et ce depuis 30 ans.
Alors eux, ils vont dire, Anthony, eux, ils vous diront aussi que les agriculteurs allemands utilisent beaucoup la main-d'œuvre polonaise à bas coût, etc.
Écoutez, en tout cas, visiblement, il y a un petit souci. Il suffit de regarder d'un point de vue géographique et territorial et se rendre compte quand même qu'il paraît invraisemblable que l'Allemagne nous soit passée devant en termes agricoles. Anthony, par ailleurs, je pense qu'il y en a effectivement un problème d'organisation du marché en France. C'est le député Ruffin faisait remarquer qu'il y a 4 centrales d'achat dans ce pays. 4 centrales d'achat qui contrôle à elle seule 80% de l'approvisionnement agricole. Ne serait-ce que d'un strict point de vue capitalistique, c'est scandaleux. D'autant qu'en plus, on ne parle pas de 4, on parle de 8 ou plus, il y a quelques années de ça.
Alors justement, ce qui est étonnant, je l'ai dit, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en Rivernais. Mais il n'était pas là, Emmanuel Macron. Comment ça se fait?
Alors, on va revenir à l'armée. Voilà, ouais, il était ministre. Apparemment, il a étendu sa visite. Il a vraiment voulu passer du temps. Ce qu'il a appelé tout à l'heure, je crois, hauteur du main, c'est-à-dire parler aux gens, etc. Il y a passé plus de temps. Maintenant, moi, je me demande si ça cache pas autre chose. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je le disais d'ailleurs en préambule tout à l'heure, il est sur tous les fronts. Sans jeu de mots, puisque maintenant, on est vraiment sur l'armée. Mais on le voit partout, alors qu'il avait dit pendant la campagne, je me souviens même d'une interview à notre journal, il avait bien précisé que lui, il aurait allé entre 4, 6, maximum 10 domaines de prédilection, qu'il serait ce président très régalien qui remet l'Élysée, enfin le président de la République, au centre de village, en tout cas de l'équipe France, etc., et qu'il laisserait gouverner son Premier ministre, qui d'ailleurs, en plus, c'est pratique, ça fait un fusible. Quand vous avez une crise, c'est bien d'avoir un Premier ministre qui soit vraiment exposé, chef de la majorité, et qui soit ce fusible. Or, on le voit partout, y compris encore tout dernièrement l'autre jour quand c'était les assises non pas de l'agriculture, enfin de l'alimentaire, mais des collectivités territoriales. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un Édouard Philippe qui vient, qui fait un grand discours, et puis le président qui passe derrière. Il n'y a pas meilleur moyen de flinguer son premier ministre que de faire ça. Je me demande si cette petite musique n'est pas quand même revenue à l'Élysée en disant mais attention, il faudrait que ce président prenne un petit peu de recul. Il est d'ailleurs extrêmement exposé là justement avec cette crise politico-militaire, et c'est peut-être pas mal qu'il soit pas allé faire son discours ce soir. Qu'il ait laissé Édouard Philippe exactement agir en Premier ministre et lancer ce chantier important. Juste un mot par rapport à l'Allemagne, je suis un petit peu étonné parce que les méthodes allemandes sont souvent reprochées en France. C'est-à-dire, vous savez, les fermes à 10 000 porcs, 150 000 vaches, etc. Enfin, j'exagère, c'est pas du tout le productivisme français.
Juste, François Reynard, parce que vous vouliez juste répondre et agir à ce que disait Henri Vernet sur.
Non, pas du tout. Au contraire, j'étais sur une petite parenthèse.
Attendez, Anthony, allez-y, François.
Allez-y. J'étais sur une petite parenthèse et qui est très au ras de l'assiette. Je suis désolé, au contraire, je descends très bas. Parce que en lisant tout le dossier là-dessus, il y a des papiers passionnants dans les Échos aujourd'hui, et il y avait les risques alimentaires qu'on prend tous, les gens qui nous écoutent, etc. Alors, il y en a qu'on connaît tous, on mange trop salé, on mange trop gras, les frigos. Les frigos qui sont trop chauds, voilà. Il y a l'excès de poissons crus, ça c'est très mauvais parce qu'il y a des dangers, etc. Et l'autre truc, c'est quoi? L'autoconsommation, les légumes qu'on plante soi-même. Pourquoi? Ça c'est dans les risques alimentaires. Ouais, pourquoi? Parce qu'on les prend à la belle-sœur, etc. Et laquelle belle-sœur a toujours la main trop lourde sur les produits chimiques. Ah, donc voilà, donc faut se méfier de tout, y compris.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut se méfier de sa famille aussi? Faut se méfier de sa famille, en fait, c'est ça. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. Ces états généraux de l'alimentation, l'info à 20h40, Maxime Fayol.
Bruno Le Maire demande la levée du blocage du site de Renault dans l'Yonne ce soir. Plusieurs dizaines de salariés de GMES sont toujours présents. Le site est à l'arrêt. 40 loups vont pouvoir être abattus jusqu'au 30 juin prochain. Des tirs de prélèvement pourront être effectués en cas d'attaque de troupeaux. On estime à 360 la population de loups sur le territoire français. Plus de 3000 pompiers luttent contre le feu en Californie. Plus de 20 000 hectares ont déjà été détruits. L'état d'urgence est d'ailleurs décrété dans le comté du Mariposa. Plusieurs milliers d'habitants sont contraints d'évacuer la zone. Les Alpes n'ont pas été décisifs dans le classement général du Tour de France aujourd'hui. Christopher Froome reste en jaune. Romain Bardet chip la deuxième place au Colombien Uran. Warren Barguil, lui, signe une victoire de prestige au sommet de l'Izoard.
France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il y a beaucoup de conférences en ce moment d'états généraux. Vous l'avez dit en internet cette semaine, c'était en début de semaine, c'était les territoires. Maintenant, c'est l'alimentation et bien sûr l'agriculture. Anthony Bélanger, je vous ai coupé la chic.
Oui,
tout
non,
à l'heure.
Voilà. On parlait tout à l'heure du modèle agricole français. C'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, ils tiennent les deux bouts de la corde. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un système productiviste extrêmement improductif, hein, parce qu'il en faut aussi. Et d'ailleurs, je rappelle que sanitairement et même, c'est beaucoup plus simple de générer des normes fermes ou des normes élevage, parce que ça permet d'avoir à domicile ou en permanence, par exemple, un vétérinaire, ou d'avoir des usines qui retraitent les lisiers, tout simplement parce que les élevages sont extrêmement importants. Et de l'autre côté, ils ont aussi beaucoup investi dans le bio, ce qui fait qu'ils ont les deux bouts. Ils ont à la fois une agriculture de très grande qualité, mais ils l'ont organisée, ils y ont pensé. Ils ne sont pas allés de crise en crise pour arriver aujourd'hui à la ruine d'un système agricole français qui n'est plus capable de produire en masse et qui n'est pas encore capable de produire en qualité.
Et pourtant, Pascal Chaplotte, il y a aussi un des enjeux de ces états généraux de l'alimentation, c'est de faire cohabiter deux ministères qui normalement ne s'aiment pas du tout, c'est-à-dire celui de la transition écologique, Nicolas Hulot, et celui de l'agriculture, Stéphane Travers. C'est Stéphane Travers d'ailleurs qui dirige les travaux, hein, c'est très symbolique. Mais est-ce que vous pensez qu'on se souvient, par exemple, il y avait eu des petits accrochages entre Ségolène Royal, Stéphane Le Foll, chaque gouvernement a ses accrochages.
Et puis Dominique Voynet insulté au sein de l'agriculture.
Exactement, voilà. Est-ce qu'à votre avis, c'est possible aujourd'hui de faire cohabiter ces deux ministères?
Ça va être très compliqué parce que je pense que Nicolas Hulot est venu dans ce gouvernement pour essayer d'imposer un certain nombre de choses. Il a tellement refusé pendant des années de venir. Donc là, aujourd'hui, s'il est là, c'est pour... Il a affiché une feuille de route et il ne voudra pas trop céder. Donc on va voir comment Travers et Hulot vont travailler ensemble. Non, puis le risque de ces assises, quand on voit les ateliers de premier niveau, les deux autres ateliers, il y en a 16, il y en a 8, il y en a 10, et on va faire parler les consommateurs. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas accoucher d'une souris et qu'on arrive à reconstruire et à rétablir des règles.
Ça devrait être fin novembre, hein, vous voyez le résultat. Donc,
mais c'est ça va être dur.
Ouais, François Reynard.
On a beaucoup moqué Macron pendant la campagne sur le « et en même temps ». Là, on est dans le sommet du « en même temps ». Et tant mieux, parce que, et en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tenir ensemble des choses complètement contradictoires, ce qu'on vient d'exprimer. Et là, ce qu'il y a bien dans les états généraux de l'alimentation, c'est d'essayer de faire tenir ensemble un écolo, un agriculteur, un consommateur, un distributeur, etc. Et c'est très compliqué.
Justement, Rivernais, Nicolas Hulot, qui lui, vous l'avez dit, Pascal Chaplotte, a un plan d'ensemble, hein, il l'a donné, hein,
sa feuille de route,
sur tous les ministères. Là, c'est vraiment sa partie sur l'alimentation. L'agriculture, à votre avis, est-ce qu'il peut faire plier des lobbies, comme parlait Anthony Bélanger tout à l'heure de la FNSEA, sur les pesticides, sur des choses comme ça, est-ce qu'il a cette possibilité?
Bah là, il a remporté une bataille il y a quelques semaines, donc
sur les abeilles, etc.
Voilà. Bon, après, il venait d'arriver, c'était un début, ça aurait été en effet un mauvais signal que de mécontenter Hulot dès le début du quinquennat. Maintenant, non, moi je doute fort qu'il arrive réellement, en effet, à faire plier des... Alors, vous dites des lobbies, oui, bien sûr, mais il y a aussi derrière ce qu'on évoquait, c'est-à-dire le revenu des agriculteurs, tout un tas de situations qui sont réellement urgentes et dramatiques souvent. Bon, là-dessus, je vois mal, en effet, un Hulot forcément imposer sa marque à tous les coups.
Pourtant, c'est symbolique. Après, pour lui, c'est symbolique. C'est justement l'agriculture, c'est la base de tout, justement. C'est l'alimentation, donc pour lui, c'est important.
Oui, bien sûr, c'est symbolique. Mais encore faut-il que le combat lui-même le soit. Parce que dans ces assises, il y a tout un tas d'enjeux qui ne relèvent pas directement de l'environnement. Je veux dire que notamment tout ce qu'on disait sur les marges entre producteurs, distributeurs, etc. Là, je veux dire, c'est pas directement un domaine
qui a été mis en avant, c'est répartir les valeurs. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, les valeurs et l'argent, les agriculteurs gagnent 350 euros et Michel-Édouard Leclerc, qui donne une interview dans Les Échos, gagne un tout petit peu plus. Alors bien sûr...
Et là, pour le coup, la Confédération paysanne, malheureusement, a raison. C'est-à-dire que c'est pas en le disant qu'on va obtenir une modification de cette échelle des valeurs, parce que là, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. On voit bien, même quand les producteurs laitiers se sont opposés à leur coopérative laitière ou à la coopérative laitière Lactis, je crois, qui ramassait l'ensemble de leur lait, dans leur contrat même, ils ne peuvent pas protester. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, que malgré des années et des années et des années de travail, on continue d'avoir en Bretagne, mais que je crois que cette année, il y a des algues vertes de manière record. Ça ruine la Bretagne. Parce que, au-delà même du problème de santé, je vous rappelle que la Bretagne, qui est censée être une région touristique, ça la ruine à l'avenir. Une fois qu'un touriste est venu et est allé se balader du côté de la baie de Douarnenez, je peux vous dire qu'il ne revient pas. Donc, en fait, il est vraiment temps de repenser le modèle agricole. Ce modèle imposé par la FNSEA, j'ai une dent contre eux, mais je crois que beaucoup de monde...
C'est présidé par une femme qui s'appelle Christiane Lambert, qui est extraordinaire.
Oui, je l'ai entendu, c'est un modèle.
Alors,
c'est un modèle de langue de bois.
Premier, en tout cas, je vous inviterai fin novembre pour parler de sa conclusion. En tout cas, des ateliers, parce que nous allons partir maintenant dans un pays où il y a des très très grandes plaines agricoles. Et ils aiment beaucoup aussi les OGM, c'est les États-Unis. Donald Trump, il est élu depuis 6 mois et on peut s'interroger, l'a-t-on jugé trop hâtivement ? Il a promis de relancer l'emploi. Et c'est vrai, il y a une recrudescence de journalistes et de commentateurs observant ses faits et gestes, et les humoristes ont presque trop de travail. Il a promis à l'Amérique de retrouver sa grandeur, et c'est vrai, puisque grâce à Trump, plus aucun Américain ne peut croire qu'il est mal coiffé. Il a promis que l'Amérique n'aurait besoin de personne, et c'est vrai, puisque le Kremlin serait même obligé de payer des hackers pour intervenir dans la campagne présidentielle pour que Trump s'intéresse à la Russie. C'est incroyable. 20 janvier, 20 juillet, 6 mois de tempête sur Washington, où entre tweets rageurs, réforme avortée, déclaration à l'emporte-pièce, et un retrait des accords de Paris, Donald Trump a du mal à convaincre, on peut le dire. Que peut-il faire d'autre, et notamment des 3 ans et demi qui lui restent ? Sa base, tout de même, lui fait confiance, mais pour le reste, c'est un peu flou, selon la politologue et chercheuse à l'IRIS, Marie-Christine Nave.
Il faut être extrêmement prudent avec lui, parce que du jour au lendemain, les choses évoluent. Lui-même peut changer d'avis sur différents sujets. Donc c'est vraiment une présidence imprévisible et il faut attendre le grand test des élections de mi-mandat l'année prochaine pour voir si vraiment cette stratégie à la fois politique et des communications peut tenir sur le long terme.
Voilà, politologue Marie-Christine Nave. François Reinhardt, comment ça fait 6 mois que Donald Trump aujourd'hui préside les États-Unis. Comment vous les voyez, vous, ces 6 mois?
Je les vois évidemment comme vous, mais comme on les voit tous à peu près. Et le gros problème, ce qui me déprime complètement, c'est ce matin à Inter, il y avait un sujet où on interrogeait des électeurs de Trump, et ils sont tous très contents. C'est ça qui est dément, quoi. Ouais. Ce qui est dément, c'est la folie du personnage. Elle apparaît à 95% des êtres humains sur la Terre, excepté aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a toujours, je sais pas, 40% de la population qui trouve que ce type est formidable, etc. Alors qu'il accumule les mensonges. Enfin, c'est déprimant. C'est déprimant.
Oui. Alors, justement, Anthony Béranger, il y a eu une interview au New York Times donnée sur son retour de Paris de Donald Trump. Et alors là, on rentre clairement dans la 4e dimension. Oui. Totalement.
Sans lui militaire, vous avez vu.
Voilà, il revient donc sur sa visite à Paris. Et à propos d'Emmanuel Macron, par exemple, il explique, je cite, « Il adore me serrer la main. Les gens ne réalisent pas à quel point il adore ma main. Il parle en effet du dîner à la Tour Eiffel où 100 000 personnes les auraient accueillis façon triomphe royal. »
Vous savez, il y a quand même...
Est-ce qu'il y a une part de jeu?
Il ne parle qu'aux Américains. Et pour les Américains, les Français sont un poil efféminés. Donc c'est un peu ça qu'il est en train de dire de Macron. Enfin, mais bon, cela dit, ça c'est pour le détail. Ce qui est vrai...
C'était les Russes qui pensaient qu'il était sodomite, Macron. C'est la presse russe qui...
On peut y aller, si vous voulez, parce que...
Est-ce que cette interview est révélatrice du personnage?
Oui, elle est révélatrice du fait qu'il ne parle qu'aux Américains et que, en fait, il a encore une fois un soutien absolument qui est pour lui fondamental, qui est même le seul qui compte, c'est le soutien des électeurs républicains. Je rappelle quand même que depuis son élection, 4 élections intermédiaires ont eu lieu aux États-Unis, qu'elles ont toutes été perdues par le Parti démocrate. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut de Donald Trump, mais il n'empêche, il tient la boutique républicaine.
Comment c'est possible, ça, alors?
Eh bien, d'abord parce que il joue avec un mythe qui est très présent dans la psyché américaine, qui est le mythe de l'homme seul qui va s'attaquer à Washington. C'est Monsieur Smith au Sénat. Vous avez vu le film? Ben, c'est exactement ça. Donc Monsieur Smith est à la Maison Blanche et c'est... Et en plus, ce n'est pas un financier, ce n'est pas un membre de l'establishment, c'est un membre que l'establishment déteste, et c'est un bâtisseur, c'est un entrepreneur du BTP. C'est comme ça que le voit une partie de ces blancs de classe moyenne inférieure qui ont voté pour lui et qui ont fait son élection. Or, quand on regarde dans les faits, non seulement ils sont 90% à penser qu'ils revoteront pour lui, mais en plus ils sont mobilisés. C'est-à-dire que dans un marais d'abstention qui est celui des États-Unis comme de la France, comme de l'Europe, ceux-là, eux, iront voter pour Trump et revoter pour lui, et donc feront les élections à venir.
Alors, on va continuer à parler de Donald Trump, de ses 6 mois à la Maison-Blanche. Dans un instant, l'info à 20h50, Maxime Fayol.
De nouvelles tensions à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la veille de l'ouverture des Jeux de la Francophonie. Un accrochage avec les forces de sécurité dans un quartier populaire a fait un mort aujourd'hui. O.J. Simpson va-t-il être remis en liberté? L'ancienne star du football américain comparaît ce soir devant une commission. Il purge une peine de 9 ans de prison pour vol à main armée. Le défenseur des droits Jacques Toubon se félicite ce soir du décret de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il prévoit que les séropositifs ont désormais accès aux soins funéraires. La disposition sera effective au 1er janvier prochain. Et un Français à poids, vainqueur à l'Izoard aujourd'hui, Warren Barguil s'offre une 2e victoire cette année dans le Tour de France et s'assure de ramener la tunique du meilleur grimpeur à Paris. Au général, Christopher Froome reste en jaune, Romain Bardet est 2e.
France Info.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des 6 mois de Donald Trump à la Maison Blanche. Ça file vite ou pas, on ne sait pas. Henri Vernet, dans ces 6 mois, il y a une chose assez étonnante, c'est que on se souvient de Donald Trump pendant la campagne présidentielle, disait l'Amérique bien sûr d'abord. Je suis protectionniste et en fait on le voit tout le temps à l'étranger, notamment en Europe. On l'a vu au G7, au G20, le 14 juillet à Paris. Il ne s'entend pas avec beaucoup de leaders étrangers, notamment par exemple Angela Merkel ne l'aime pas. Avec Emmanuel Macron, c'est assez étonnant en fait ce qui est en train de se passer, parce que au départ ça se passait pas très bien, et puis alors là le 14 juillet, lune de miel.
Ah oui, non, c'est une vraie lune de miel. C'est, alors étonnant oui et non, parce qu'ils ont quand même pas mal de points communs. Hein.
Ah oui.
Tous les deux. Ah bah oui, tous les deux. Alors certes, on a beaucoup dit en France que la candidate de Trump c'était Marine Le Pen, mais je crois que ça relevait beaucoup du fantasme. Ils savaient même pas qui c'était. L'extrême droite française n'est pas quand même les Républicains américains, etc. Le Tea Party américain, il y a quand même de vraies différences. Non, je crois que de toute façon ils ont un regard assez distancé là-dessus, notamment Trump. Hein. Et, d'abord, il est beaucoup à l'étranger parce qu'il fait son job de président américain, et avec Trump. Non, quand je dis qu'ils ont des points communs, c'est que tous les deux se sont présentés, alors sans l'être ni l'un ni l'autre, mais des gens comme étant anti-establishment. Mmh. Tous les deux ont quand même, alors là est totalement narcissique, c'est Donald Trump, mais Emmanuel Macron n'est quand même pas totalement, enfin une certaine idée de lui-même et de la fonction qu'ils ont endossée.
Henri, tous les chefs de gouvernement.
Non, pas
au
ce point-là, pas à ce point-là. Oui. Non, mais surtout Emmanuel Macron, je trouve qu'il est très pragmatique, et il est plutôt habile avec ça, c'est-à-dire qu'il saisit de cette relation ce qu'il peut en attirer de positif. Là, je trouve plutôt intéressant à Paris la manière dont il a amené Trump à être finalement, à ne pas exclure totalement un revirement sur le climat. On sent bien, alors sur la Syrie, par exemple, il y a eu un revirement quand même spectaculaire de la France sur la Syrie. Mais là, pour le coup, et Macron rejoint plus ou moins les positions d'un Donald Trump, également d'un Poutine. Et ça, c'est important. Ce sont quand même des vrais dossiers. Enfin, sur la sécurité européenne, moi, je trouve que Trump, qui prenait ça avec un grand mépris, l'Europe, ça n'intéressait plus les Américains.
Et quel Brexit pour lui? Et puis,
on voit bien que là, il y a un certain retour. Donc, je trouve que là-dessus, Macron est plutôt habile et plutôt pragmatique. Et il agit de cette façon, comment dire, de se poser comme l'interlocuteur européen de Trump. Bah, c'est plutôt bien joué. Et si ça peut porter ses fruits, tant mieux.
Patricia Chaplotte.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Mince,
je pense que Macron est un homme qui est extrêmement psychologue. Il a su aller à Versailles avec Poutine. Là, Trump voulait une parade au moment où il a été investi. Ça ne se fait pas aux États-Unis. Là, il était tellement heureux d'être sur les Champs-Élysées, de voir des militaires défiler. La Tour Eiffel. Donc, il a su, effectivement, comme vous le dites...
Mais on n'est pas là quand même aussi pour faire plaisir aux autres chefs étrangers.
Non, mais ça veut dire... Oui, très malin, parce qu'il a compris la psychologie de l'homme qui est narcissique au possible et qui, finalement, il lui a mis Paris dans les yeux, etc. Mais il a réussi à discuter avec lui, il a réussi comme s'imposer comme un leader européen. Alors, qui
juste
sait
une chose, Patricia Chaplotte, il lui a mis Paris dans les yeux, mais il n'a pas très bien compris, apparemment. Quand on lit une interview du New York Times, par exemple, entre Napoléon, tout ça, c'est un peu compliqué
un peu
encore.
Je pense qu'au 14 juillet de l'année prochaine, Trump sera très content qu'on fête le premier anniversaire de la fête de Trump.
Oui,
Anthony, une question pour vous. 6 mois donc à la Maison Blanche, on a vu qu'il y avait un échec à changer le Obamacare, la fameuse réforme de Barack Obama. Muslim ban, bon, appliqué à moitié. Le mur à la frontière du Mexique, toujours pas construit. Qu'est-ce qu'il a fait en fait de ces 6 mois?
Il a fait plusieurs choses qui ont été très pour ses électeurs très importantes. Il a par exemple abrogé le traité transpacifique. Or ça, il y a une grande partie de son électorat qui était vent debout dessus parce que c'était clairement une menace pour tout ce qui est... lui estimait que c'était une menace.
Oui, mais Anthony, mais ce traité transpacifique, il avait été fait patiemment par Obama pour essayer de faire que tous les États asiatiques hors la Chine soient avec les États-Unis pour contrer la Chine.
Ça devenait un symbole. C'était devenu un symbole.
Que pour ces gens de la Rust Belt américaine, l'ennemi, c'est la Chine. C'est elle qui fait la concurrence.
Effectivement, bien sûr.
Donc il a supprimé un bouclier.
C'était la matrice de traité à venir. Et puis, tout simplement, d'un traité qui était devenu un symbole de la pauvre... Enfin, en tout cas, de ces importations
pour
que les Américains...
Ça provoquait, soi-disant, pour eux,
plus contrôler. Il en avait fait un symbole. Il a obtenu la. Il a fait le Muslim ban. Le Muslim ban qui l'interdiction de 6 pays musulmans pour les ressortissants de 6 pays musulmans de venir aux États-Unis, qui s'est terminé devant la justice. Hein, on voit bien que c'était. Mais il a donné des signaux à son électorat.
Oui, mais c'était pas grand chose.
Je ne dis pas qu'il ait fait beaucoup.
Il n'a pas fait beaucoup de choses pour l'instant. Mais alors,
il en a fait beaucoup. Je dis simplement qu'il en a fait assez pour satisfaire son électorat.
Patricia Chaplotte.
Non, moi, j'ai écouté religieusement Anthony Bélanger sur un autre média. tout à l'heure.
France Inter, voilà. C'est pas grave.
Non, mais je trouvais ce que vous disiez qui était intéressant, c'est-à-dire que toute l'action de Trump est manipulée dans les médias américains, selon que les médias sont de gauche ou de droite, etc. Ils interprètent les choses, etc. On compte le nombre de tweets qu'il a fait, on compte le nombre de bourdes qu'il a fait, etc. Et donc, c'est très difficile, comme vous le disiez tout à l'heure, pour nous, Français, de comprendre la psychologie de l'Américain moyen qui a voté pour Trump et de comprendre comment il gère, parce que les États-Unis ne sont pas du tout gouvernés comme la France. Son pouvoir est relativement limité,
juste une dernière question pour aller dans votre sens, Patricia Chaplotte. On le voit, mauvaise relation avec la presse, François Reinhardt, mais est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il y a une incidence sur les Américains ou ils s'en fichent finalement quand on voit le président américain faire un tweet où il tape CNN, etc. Est-ce que finalement ça ne regarde que les médias ou est-ce que vous pensez que ça a une incidence?
Ça a une incidence pour les gens qui lisent les journaux en question. Donc, mais effectivement, là, il y avait des papiers très intéressants la semaine dernière sur le fait que les médias sont très gagnants de l'affaire aussi, hein, parce que le New York Times, ils font des ventes historiques.
C'est ça.
Parce qu'ils ont un ennemi. Mais enfin, c'est tout ça est quand même très déprimant.
Après, on regarde. Allez-y.
Juste pour dire sur les médias, c'est vrai qu'on a l'habitude quand on est en France et parce qu'on est bien élevé de lire des journaux comme le New York Times, le Washington Post, le Los Angeles Times, bref, des journaux qui nous correspondent, qui sont malheureusement en ce moment totalement en guerre contre Donald Trump. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment faire très attention en les lisant, à ne pas confondre les frais du commentaire, et faire attention encore une fois, ces journaux sont vraiment, et le disent, c'est-à-dire que les gens qui les achètent aux États-Unis savent très bien ce qu'ils achètent, comme ils savent très bien quelle chaîne de radio ou de télé ils écoutent. Ils savent très bien ce qu'ils vont y trouver, et d'ailleurs ils y vont pour ça. Mais nous, non. Nous, on les lit comme si
c'était... Alors justement, Anthony, alors, Henri Dernay, rapidement, par exemple, dans Le Parisien aujourd'hui en France, comme nous, ou comme dans l'Obs, on a beaucoup parlé de Donald Trump. Vous, concrètement, est-ce que ça marche auprès des lecteurs? Est-ce que ça les intéresse?
Oui, l'Amérique, ça intéresse. Et puis le personnage Trump, bien sûr. Et quand vous disiez, François, tout à l'heure, ils sont tous un peu comme ça. Non, il y a des individualistes qui... Regardez, par moi, ça me fait penser à Berlusconi. Lui aussi pouvait aller très loin dans la folie, dans la transgression de ce qu'on dit, dans l'outrance, exactement.
Vous avez Orban en ce
moment. Exactement, voilà, oui, mais alors c'est moins connu.
C'est vrai, mais je peux vous assurer qu'Orban,
il en sort tous les jours. Et sans parler des fous dangereux qui sont à l'Est, comme en Tchétchénie, etc. Non, mais j'ai jamais dit ça. On parle de Trump, là.
Il y a une génération de mal-alpha qui sont assez difficiles à gérer et que visiblement Macron s'est très bien satisfait.
Mal-alpha, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. D'ailleurs, on vous retrouve dès demain matin.
Mais
Anthony,
oui.
Bélanger, à quelle heure?
À 8h15.
À 8h15 sur France Inter, mais après, il faut aller sur France Info. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci à Patricia Chaplotte. La une de l'homme cette semaine, François Reinhardt.
Alors, qui fait quoi dans le couple? C'est sur la charge mentale. Vous savez, tout le monde parle de la charge mentale.
Voilà.
Moi-même, il faut que je me dépêche. J'ai une machine à laver à remplir.
C'est bien pour en parler sur la plage, d'ailleurs. Et la une du Parisien aujourd'hui en France,
on sort des crises politico-militaires et autres. Demain, c'est, vous savez, les polémiques sur les spectacles d'animaux, est-ce qu'il faut les interdire ou pas, etc.
À retrouver demain dans Le Parisien.